Constantino Fiore, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Alors, dans quelques instants, nous allons entendre votre témoignage et votre expérience. Est-ce qu'auparavant, vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui. Alors, Constantino Fiore, je suis laïque à mission ecclésiale, papa de trois enfants, marié, j'habite en région lyonnaise. Et je suis aumônier national des établissements de santé à la Conférence des évêques de France, où je m'occupe un peu de tout ce qui est aumônerie hospitalière sur tous les territoires nationaux. Et je suis moi-même aumônier dans un hôpital public à Lyon. Alors, vous allez entendre un petit accent italien, peut-être. Je suis d'origine italienne, et notamment du diocèse de Milan. C'est le même diocèse où Radio Maria est née, il y a quelques années. Hein, le diocèse de Milan, c'est mon diocèse d'origine. Je suis arrivé en France il y a quelques années, mais je suis juriste de formation. Du coup, ma formation de juriste, je l'ai commencé en Italie. Et mon premier poste, c'était un poste de conseiller juridique dans un hôpital. Il y avait déjà ce lien avec le monde de la santé. Après, j'étais directeur d'un centre pour les jeunes à Milan, une sorte de patronage. J'étais à Rome pendant une année pour une formation au dialogue interculturel et interreligieux, notamment à l'Institut pontifical d'études arabes et islamologie, et l'Université grégorienne, ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine en arrivant en France, à Lyon, avec un projet de voyage à Jérusalem pour tous les leaders religieux de la ville, 2008-2009 notamment. Et après, j'ai été appelé à être aumônier dans un hôpital public à Lyon pour un mi-temps. J'ai dit, pourquoi pas, je vais voir comment ça se passe. Et après, ça m'a plu, je suis resté dans ce domaine. J'étais responsable diocésain des aumôniers pour le diocèse de Lyon. Et à partir de 2017, aumônier national des hôpitaux, à la Conférence des évêques de France à Paris. L'aumônier national, comme je vous disais tout à l'heure, accompagne un peu les responsables locaux, les responsables diocésains sur tout le territoire national. Il est l'interface avec le ministère de la Santé pour toutes les questions liées aux aumôneries hospitalières. J'ai une équipe avec laquelle je réfléchis aux questions de fond concernant les aumôneries hospitalières aujourd'hui. Et après, je me déplace aussi dans les différents diocèses pour donner des formations sur des thèmes qui peuvent être utiles pour la pastorale de la santé. Et je garde quand même un pied à l'hôpital parce que j'ai encore un petit temps de travail à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, un hôpital public, parce que j'aime bien garder un pied sur le terrain, garder le contact direct avec les patients, les familles et le personnel. Alors, je vais vous parler un peu de la mission de l'aumônier d'hôpital. Il fait quoi un aumônier d'hôpital? Quelle est sa mission, son rôle, sa place dans un établissement de santé, public ou privé d'ailleurs? Il s'agit bien d'une mission. Les aumôniers sont envoyés par l'évêque pour être présence d'église à l'hôpital. C'est ça un peu le noyau, le point fort de leur présence, être présence d'église à l'hôpital. C'est une mission qui s'exerce dans un cadre légal précis. On parle beaucoup de laïcité aujourd'hui, notre cadre légal est clair, c'est la loi 1905. Vous savez que cette loi, sur laquelle on discute encore beaucoup, c'est une loi qui est intitulée la séparation des églises et de l'État. Et donc l'État ne subventionne, ne finance pas les cultes. Et en revanche, il est prévu que pour certaines situations, notamment les hôpitaux ou les prisons ou l'armée, les personnes ne peuvent pas se déplacer pour pratiquer leur culte, alors l'État intervient pour financer des aumôneries. Alors, dans ce cadre-là, la liberté de culte prévaut sur la distinction entre l'État qui est neutre et les confessions religieuses en France. Ce qui donne aussi le fait qu'il y a des lignes budgétaires pour les aumôneries hospitalières aujourd'hui, des aumôniers qui sont salariés de tous les cultes, de cinq cultes principaux attitrés par le ministère de la Santé, c'est-à-dire le culte catholique, le culte protestant, le culte musulman, le culte juif, le culte bouddhiste. Tout en sachant que l'aumônier, la figure classique de l'aumônier d'hôpital a longtemps désigné un prêtre qui parfois habitait dans l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital, avec son appartement, il pouvait se déplacer facilement. Et selon le droit canonique, l'aumônier reste un prêtre, effectivement. Mais il y a eu un tournant dans l'histoire de la pastorale de la santé. Ce tournant, au niveau de l'Église de France, c'est Ça date de novembre 1982, et c'est à Lourdes, hein, petit clin d'œil pour cette ville mariale. En novembre 82 à Lourdes, les évêques de France se sont retrouvés en assemblée plénière. Ils ont décidé de former des équipes de monnerie pour être présents en tant qu'église dans les établissements de santé. Alors, il y avait de moins en moins de prêtres disponibles pour les hôpitaux, évidemment, il y avait cette question pratique, mais l'idée aussi de donner à l'équipe de monnerie formée par des prêtres et des laïcs la charge pastorale de représenter l'église à l'hôpital. Donc, depuis les années 80, nous avons des équipes dans les hôpitaux, formés, comme je vous disais, par des bénévoles d'aumôneries et des aumôniers salariés par les hôpitaux, salariés qui peuvent être aussi des laïcs en mission ecclésiale, comme moi, des prêtres ou des religieux, en lien avec le service diocésain de la pastorale de la santé. C'est une pastorale transversale qui ne dépend pas de paroisse, hein, qui est en lien directement avec un service diocésain missionné par l'évêque. Alors, pour vous donner des chiffres, aujourd'hui en France, il y a 830 aumôniers catholiques salariés par les établissements de santé. 830 aumôniers catholiques salariés par les hôpitaux. La grande majorité, ce sont des laïcs à mission ecclésiale, auxquels la loi civile donne aussi la dénomination d'aumônier. Vous parlez du droit canon, l'aumônier doit être un prêtre, mais c'est une dénomination qui nous est attribuée aussi par la loi civile, parce qu'il y a aussi des aumôniers musulmans, par exemple, juifs. Donc des prêtres, des religieux ou des laïcs à mission ecclésiale, mais 830 salariés, 830 catholiques salariés par les hôpitaux montrent, il me semble, la confiance de la plupart des directions hospitalières et du personnel aussi, du personnel soignant, vis-à-vis de nos équipes. C'est un nombre qui tient encore la route. Il y a des postes, effectivement, occupés par, comme je vous disais, beaucoup de laïcs à mission ecclésiale. Et ça montre vraiment une ouverture, une confiance vis-à-vis de l'Église catholique, aussi grâce à l'histoire de liens entre le monde de l'Église catholique, ses bénévoles, ses prêtres et les hôpitaux de France. On discute beaucoup avec le personnel. Je me souviens de mon hôpital, un pharmacien qui me disait, quand je lui expliquais la mission de l'aumônier, il me disait « vous êtes le visage humain de l'hôpital ». C'était un pharmacien musulman qui me disait ça. Ou un médecin, par exemple, à qui on a demandé « qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous d'un aumônier d'hôpital ?» Et ce médecin me disait « l'aumônier, à mon sens, l'aumônier réinstaure le patient dans son humanité ». Il a utilisé cette expression. Il réinstaure le patient dans son humanité. Alors, ce service de l'humain, hein, au nom de l'Église, que nous essayons d'apporter dans les établissements de santé. Alors, j'ai envie de vous dire deux mots qui guident un peu la mission de l'aumônier d'hôpital. Ces deux mots que j'évoque, que j'essaie d'expliquer, ce sont le mot partenariat, le premier, et le compagnonnage aussi, le deuxième mot. Le partenariat, d'abord. Pourquoi je parle de partenariat concernant les aumôneries hospitalières? Je parle de partenariat parce que il s'agit vraiment de mettre en place un travail interdisciplinaire avec le personnel soignant, avec les infirmiers, avec les médecins, les aides-soignants, tout ce qui est monde des professionnels de santé, pour que le patient vraiment soit considéré comme une personne à part entière. On travaille avec eux, un lien étroit avec eux, pour porter ce regard global sur la personne du patient, pas uniquement un objet de soin. Et je dois dire que beaucoup d'accompagnement avec des patients, beaucoup d'accompagnement inattendu et très riche aussi se font grâce au personnel soignant, qui est attentif à repérer des besoins d'ordre spirituel chez le patient et à proposer le passage de l'aumônier. C'est grâce aux soignants qui voient, par exemple, une patiente qui écoute la messe le dimanche matin, un objet religieux sur la table de nuit, qui écoute aussi des propos d'un certain type, hein, que voilà, le lien se fait. Et quand je parle aussi de besoins spirituels, je ne parle pas uniquement du religieux au sens strict du terme. Hein. Je ne fais pas uniquement référence aux prières et aux actes de culte. Nous pouvons avoir un besoin spirituel et pour utiliser une expression encore meilleure, des attentes spirituelles, hein, plus que des besoins, des attentes spirituelles. Lorsqu'une personne s'interroge sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur le sens de la maladie, avec des questions comme pourquoi vivre, pourquoi souffrir, pourquoi ça m'est arrivé à moi en ce moment de ma vie, pourquoi la maladie ça m'est tombée dessus, qu'est-ce que je fais pour mériter ça, tous ces questionnements-là autour du sens de ce que je vis, on peut le qualifier de spirituel. Vous savez que spirituel, ça vient du latin, spiritus, hein, esprit, qui traduit le pneuma grec, tout ce qui donne du souffle, qui nous permet d'exister, de résister, d'espérer, tout ce qui m'anime. Donc souvent, les aumôniers sont vraiment confrontés à ce genre de questionnement profond, existentiel, on peut dire, avec parfois des patients qui ont ce type de questionnement et qui se déclarent aussi peu ou pas croyants. Nous sommes là pour accompagner tout le monde sans demander les certificats de baptême. Nous sommes là pour accompagner les gens là où ils sont. Ce qui est important, il me semble, de préciser, c'est qu'avec ces patients, avec tous les patients, les aumôniers ne cachent pas leur identité. Nous nous présentons en expliquant bien notre mission. On n'est pas les assistants sociaux, on n'est pas les psychologues de l'hôpital. Nous ne sommes pas non plus les bénévoles de l'association XY qui intervient de l'extérieur, qui fait du bon travail, évidemment, d'écoute des patients, mais nous sommes l'équipe d'aumônerie de l'hôpital. Quand je me présente dans une chambre d'un patient, d'une patiente, je dis tout simplement, je m'appelle Costantino, je fais partie de l'équipe d'aumônerie catholique de cet hôpital. Je me situe par rapport aux patients, par rapport à ma mission. Alors, certains patients disent « Merci, cela ne m'intéresse pas. Merci pour votre passage quand même. Merci d'être passé. » Et beaucoup ont envie de discuter. Donc, on peut parler de tout. De tout, évidemment, nous restons à l'écoute de l'autre, mais toujours comme des personnes missionnées par l'Église. Nous restons à l'écoute de l'autre. L'autre, on peut parler de ce qu'il veut. Mais nous sommes là vraiment, pas à titre personnel, pas au nom de notre expérience ou de notre formation, nous sommes là en tant que représentants de l'Église. Nous ne faisons pas de visites de courtoisie, des petites visites, juste pour passer le temps. Nous, on est là pour manifester cette sollicitude, cette proximité de l'Église vis-à-vis du patient. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'en tant qu'envoyés par l'Église, nous sommes des porteurs de communion, et pas uniquement dans le sens de l'Eucharistie. Donner la communion dans les chambres, c'est aussi une demande que nous pouvons recevoir de la part des patients. Nous sommes des porteurs de communion parce que porteurs de ces liens profonds pour lesquels chaque personne, même hospitalisée, a toute sa place dans la communauté ecclésiale. Même si on est coupé de la possibilité de rejoindre nos frères et sœurs à la messe, par exemple, dans une vie communautaire, paroissiale, voilà, il y a cette présence d'église à l'hôpital qui permet de reconstituer les liens. C'est pour ça que je dis à tous les bénévoles, tous les aumôniers, vous êtes porteurs de communion. À chaque fois que vous allez rencontrer un patient, vous êtes le visage de cette communion. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler une chose importante aux auditeurs, une chose qui est vraiment à laquelle je tiens, lors d'un séjour à l'hôpital, vraiment demandez la visite de l'aumônier. Si vous êtes hospitalisé, pour vous ou pour vos proches, demandez la présence de l'aumônier. Demandez à l'infirmière, est-ce que je peux voir l'aumônier? Est-ce que vous pouvez appeler l'aumônerie, hein? Parce que cela fait partie des droits des patients. Le patient a droit de voir un ministre de son culte. Ça fait partie vraiment des droits que les infirmiers, les médecins étudient lors de leur formation, droits fondamentaux du patient. Donc il faut pratiquer, exercer son droit, montrer qu'on le connaît aussi. Et ça montre aussi au personnel l'importance de ce type d'accompagnement, l'importance de l'aspect spirituel dans la prise en charge globale du patient. Alors, je dis ça aussi, de demander la présence de l'aumônier pour discuter, pour faire un peu le point, pour reconstituer ce lien ecclésial dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous invite à faire ça aussi parce que beaucoup de patients ne sont pas informés. Combien de patients j'ai rencontrés à la sortie de l'hôpital qui me disaient « je ne savais pas que vous étiez là ». Si j'avais su que vous étiez présent à l'hôpital, j'aurais fait appel à vous pour recevoir la communion, pour discuter un peu avec vous. Voilà, donc c'est très important qu'un patient ou sa famille puisse demander le passage de l'aumônier. Et après, il y a toujours un peu l'idée reçue que l'aumônier intervient uniquement pour les cas de fin de vie, alors que ce n'est pas ça. Hein. Moi, personnellement, dans mon expérience d'aumônier, j'ai fait un calcul par rapport aux visites en fin de vie, ça représente le 10% de mes accompagnements, les accompagnements en fin de vie. Tout le reste, ce sont des patients qui ont envie de discuter, qui ont envie de prier, qui ont envie de voir quelqu'un qui puisse les écouter. Hein? Même s'il s'agit d'une petite intervention à faire, quand on se retrouve dans un lit d'hôpital, on fait expérience de nos limites, on fait expérience de notre fragilité. On n'est pas maître de son temps quand on est à l'hôpital. On vit une forme de dépendance. Des patients qui m'ont dit « Depuis que je suis à l'hôpital, j'aurais fait la liste de mes priorités. » Voilà, parce qu'on est bloqué dans un lit d'hôpital. On fait cette expérience-là. On se demande qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. Dans un lit d'hôpital, nous sommes tous en quête d'un regard, d'un mot, d'une présence qui nous rassure sur le fait que nous n'avons pas perdu notre humanité, que nous sommes toujours là, comme des hommes et des femmes à part entière. Et je voulais vous raconter à ce propos l'histoire d'Élise. Le nom, voilà, je l'ai un peu changé pour des questions de confidentialité. L'histoire d'Élise, c'est une patiente vers laquelle un médecin, le chef du service de nutrition intensive, m'a orienté. Il m'a dit, écoute, c'est une patient anorexique, Constantino, est-ce que tu pourrais aller la voir avec nous? Elle ne veut plus parler. Elle est complètement bloquée à la communication vis-à-vis du personnel soignant. On doit la nourrir artificiellement. Voilà, mais peut-être que elle pourra échanger quelques mots avec toi. Alors, je suis allé voir cette jeune fille. Je frappais à la porte, elle était debout, elle m'a ouvert. Je me suis présenté et après, on est resté une bonne minute en silence, en se regardant. On était debout tous les deux, elle faisait 35 kilos. Elle avait une sonde pour être nourrie artificiellement. Donc c'était, je me souviens, autour du 20 décembre. Hein, après, j'ai demandé si je pouvais prendre une chaise pour discuter. Du coup, elle s'est assise sur son lit. Moi, j'étais assise sur la chaise. On a discuté. Elle ne parlait pas beaucoup, des petites phrases. Je demandais depuis combien de temps elle était là. Si elle avait des visites, elle me disait non, je ne peux pas avoir de visite. Je suis là pour être nourrie artificiellement pour qu'elle puisse reprendre du poids. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Hein. Il fallait qu'elle reprenne du poids. Mais elle ne pouvait pas voir ses parents, c'était le protocole de soins. Et maintenant qu'elle me disait tout ça, je pensais que c'était presque Noël, c'était autour du 20 décembre, je vous disais. Et Noël, c'est la famille, et Noël, c'est aussi la nourriture, les repas de famille. Alors on a commencé à parler de Noël, et elle me racontait avec de plus en plus envie de partager son expérience, me raconter qu'elle avait vécu dans son enfance, les repas de Noël, la préparation du repas, la présence de toute la famille. Du coup, je voyais que ce sujet-là lui donnait envie de parler. Et je lui ai demandé à la fin de la visite, parce que c'est une bonne demi-heure, c'était déjà écoulé, elle commençait à fatiguer. Je lui ai demandé si elle souhaitait que je revienne. Elle m'a dit « Oui, venez demain ». Alors, le lendemain, je me suis représenté dans sa chambre, dans la chambre d'Élise, et je lui ai apporté une petite crèche à mettre sur sa table de nuit. Quand elle a vu la crèche, la première fois qu'elle a fait, je l'ai vu sourire pour la première fois quand elle a vu ce petit objet. Après, on a encore discuté un peu plus de Noël. Je lui ai demandé à la fin de la visite et je lui ai souhaité, revenez cette semaine. Je suis revenu et quand je suis revenu, les soignants, avant de rentrer dans la chambre, m'ont dit, écoutez, Élise a commencé à nous parler. Elle nous a montré sa petite crèche, elle était toute fière de sa petite crèche sur sa table de nuit. Elle nous a dit, les infirmières me disaient, elle nous a dit qu'elle aussi peut fêter Noël cette année. Donc il y a eu ce petit déclic avec l'objet crèche qui lui redonnait la possibilité de célébrer, de vivre Noël à sa manière, même s'il était enfermé dans sa chambre, même s'il était nourri artificiellement, même s'il était coupé de tous les liens familiaux qui accompagnent normalement les festivités autour de Noël. Après, la situation s'est débloquée. Élise est sortie de l'hôpital. Elle est restée en contact avec l'aumônerie. Elle nous écrivait assez souvent des lettres, nous disant merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé comme une personne alors que j'étais presque morte, elle disait. Voilà. Et aujourd'hui, Élise, elle a terminé ses études d'infirmière. Elle est infirmière dans un hôpital en France. Du coup, elle a pu rebondir par rapport à sa maladie. Alors, je vous ai raconté cette histoire pour vous dire encore une fois l'importance de ce regard de humain à humain. Alors, le personnel soignant fait beaucoup dans ce sens, malgré la charge de travail au quotidien qu'il doit supporter, qu'il doit assurer. Le temps de Covid qui traverse encore nos établissements de soins, nos EHPAD, ça montre aussi une demande relationnelle forte. Il n'y a pas uniquement l'aspect sanitaire qui compte, il y a tout ce qui va avec, tout ce qui est aussi de l'ordre du relationnel, de l'accompagnement humain. Et les membres de l'équipe d'aumônerie, dans ce type de situation, essayent d'être signe de ce regard de l'Église qui se fait proche de celui qui souffre. Bon, après, je vous dis aussi que parfois, face à certaines souffrances physiques ou psychologiques, il n'y a pas grand-chose à dire. On reste là en silence. Et l'image qui me vient à l'esprit maintenant est celle de Marie au pied de la croix. Elle reste là, silencieuse, stabat mater. Elle sait que sa place est là, car elle ne pourrait être nulle part ailleurs. Elle est restée là, au pied de la croix. Alors notre présence dans les hôpitaux s'inspire de cette présence de Marie. Elle est un signe. Je dis toujours, quand je rencontre des bénévoles de l'aumônerie, vous êtes un signe, mais signe de quoi exactement? Parce qu'il faut donner du contenu à ce fait d'être signe. Je dis, on est signe de quoi finalement? On est signe d'abord d'une chose fondamentale, de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes à l'hôpital avec les personnes fragiles, signe de cet amour de Dieu qui est donné sans condition. Sans condition. C'est signe de cette gratuité de l'amour de Dieu qui est donné à tout le monde. C'est le premier contenu, ce fait d'être signe. Mais on est aussi signe de la valeur de la vie de chacun. La valeur de la vie de chacun, du début à la fin, au-delà de ses conditions physiques ou matérielles, de son âge. Chaque vie a une valeur, du début à la fin. Et à ce propos, j'ai fait toujours l'exemple de cette maman qui allait voir tous les jours sa fille qui était dans le coma, un coma irréversible suite à un accident de la route. Elle allait tous les jours à l'hôpital pour la voir, pour passer des heures et des heures avec elle. Au bout d'un moment, les soignants lui disaient à cette maman, « Madame, votre fille ne peut pas vous répondre. Restez un peu chez vous, reposez-vous, c'est pas la peine d'être là vraiment tous les jours. » Et cette maman qui répondait, « Mais vous ne comprenez pas, » elle disait aux soignants, « Vous ne comprenez pas, elle, ma fille, elle me donne tant d'amour. Elle me donne tant d'amour, ma fille à moi. » Je pense que tout est dit avec cette réponse de cette maman. Tant qu'il y a de la relation, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la relation. Je pense qu'on est témoin de ça. On est témoin vraiment de cette valeur de la vie de chacun et de chacune. On est aussi signe de l'espérance pour les jours à venir. Parce que combien de fois j'ai entendu cette phrase de la part de personnes, surtout des personnes âgées, qui me disent « je ne sers plus à rien ». suis complètement bloqué dans ce lit d'hôpital. Je ne vois pas d'avenir pour moi. J'ai entendu plusieurs fois cette phrase, je veux mourir, je veux terminer ma vie, je suis un poids, je suis devenu un poids pour ma famille. Alors bon, à chaque fois, encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite à donner, il y a juste le fait de dire, ah bah, voyez madame, voyez monsieur, vous m'avez accueilli, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de pouvoir discuter un peu avec vous, de prier avec vous. Hein. C'est une relation, il y a un donner à recevoir. Je suis content de revoir, vous revoir, discuter un peu. Il y avait un patient qui disait à un collègue, à chaque visite, je veux mourir, j'aimerais bien qu'on me fasse une piqûre, j'aimerais bien mourir ce soir, je vais demander au médecin d'arrêter tout traitement, j'aimerais bien mourir aujourd'hui, mais est-ce que vous viendrez la semaine prochaine me voir? Voilà, encore une fois, la relation qui donne de la vie, la relation qui fait vivre, qui redonne de l'humanité. On est aussi signe vraiment de cette espérance qui nous vient du Seigneur. Et finalement, on est aussi signe de l'action de l'Esprit Saint, de l'action de l'Esprit Saint ici et maintenant, qui dépasse largement ce que nous pouvons dire ou faire. Hein. Le Seigneur agit bien au-delà de ce que je peux dire, ce que je peux proposer aux patients. Et c'est pour cela qu'avec le mot partenariat que j'évoquais tout à l'heure, j'ai parlé aussi du mot compagnonnage. C'est le deuxième mot qui guide un peu la mission de l'aumônier. À chaque visite, j'ai vraiment l'impression de faire un petit bout de chemin avec le patient. Ce qui est important pour un aumônier, ne pas aller voir le patient avec une idée derrière la tête, avec un programme à réaliser. Nous mettons d'abord à l'écoute. L'écoute, c'est très important dans la posture, dans l'attitude du membre de l'aumônerie, bénévole ou salarié. Être d'abord à l'écoute, se mettre au rythme du patient, comme le diacre Philippe dans les Actes des Apôtres, qui rencontre ce fonctionnaire éthiopien, qui monte sur son char et discute des Écritures. Et après, au bout d'un moment, c'est le fonctionnaire lui-même qui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Ou comme Jésus sur la route d'Emmaüs, qui se met au pas des deux disciples et qui a même changé ses programmes. Il a changé ses programmes pour rester avec eux le soir venu. C'est là qu'on se rend compte que l'Esprit Saint agit dans le cœur de tous les deux, le visiteur et le visité. Quelqu'un disait que chaque visite est comme une visitation. Marie-Élisabeth, encore une fois. Cette rencontre qui permet à l'un et à l'autre de progresser dans la foi. Et je peux vous assurer que ma foi personnelle a mûri, que le Seigneur m'a fait faire beaucoup de chemin grâce aux rencontres que j'ai vécues à l'hôpital, grâce aux patients, aux familles, aux membres du personnel que j'ai accompagné. Alors, si quelqu'un des auditeurs pense de se lancer dans ce type de service, j'ai envie de lui dire deux choses. D'abord, il faut un discernement du côté de l'Église qui envoie une mission et du côté de la personne qui aurait envie d'intégrer une équipe d'aumônerie, par exemple. Un discernement et une formation, car l'hôpital est un cadre particulier. Ce n'est pas la paroisse, l'hôpital, on n'est pas chez nous. Hein. Et pour tout cela, il faut s'adresser au service du pastorat de la santé de votre diocèse pour pouvoir faire ce discernement et cette formation. Il faut aussi considérer que nous ne sommes pas là uniquement pour combler des besoins. Hein. Certes, il y a des besoins. Les patients sont en attente de visite, ce sont les personnes âgées sont en attente de visite à l'hôpital, à domicile, mais nous ne sommes pas là pour combler uniquement des besoins. Nous sommes dans les hôpitaux car dans le contact avec les plus fragiles, c'est l'Église qui grandit. Et je reprends à ce sujet un passage du pape François dans la joie de l'Évangile pour vous dire que vraiment, c'est dans ce contact avec les personnes plus faibles, plus fragiles, que l'Église peut grandir, peut consolider sa foi. Le pape François, dans les joies de l'Évangile, il y a deux points, 197-198, comme référence de document, il dit, je vous lis la phrase, après j'essaie de vous la détailler un peu plus, il dit, nous avons besoin de reconnaître la force salvatrice de l'existence des plus faibles, à les mettre au centre du cheminement de l'Église et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous révéler, veut nous communiquer à travers eux. Alors, je vous la reprends, cette phrase, parce que c'est assez dense, c'est beau, mais c'est dense. La force salvatrice de l'existence des plus faibles, ceux qui nous sauvent. Hein, c'est Matthieu 25. J'étais malade, vous m'avez visité. C'est pas nous qui apportons le salut. C'est dans une force salvatrice, dit le pape François, dans la présence, dans l'existence des plus faibles. Les mettre au centre du cheminement de l'Église. Il y a déjà l'idée d'une Église qui est un chemin dans l'histoire, hein, qui progresse dans l'histoire, qui a au centre de son cheminement, la présence des plus fragiles. Ce n'est pas une option, celle des pauvres, celle des plus fragiles, celles qui sont malades. C'est quelque chose qu'il faut mettre au centre de la vie de nos communautés et accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Il y a un message pour nous dans chaque rencontre avec une personne fragile, avec une personne malade, avec une personne dépendante. Il y a un message que Dieu veut nous communiquer, veut nous faire passer. Dans chaque visite, il y a un appel de Dieu, un message pour moi, quelque chose que Dieu veut me dire, veut me transmettre. Dans la visite, du visiteur à visiter, c'est aussi le visiteur qui est visité. Hein. Il est visité notamment par la présence de l'Esprit-Saint, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, comprenez pourquoi l'Église peut grandir et grandit effectivement dans ce contact avec les personnes plus fragiles. Je peux vous témoigner vraiment que cette joie est réelle. On parle de la joie de l'Évangile et cette joie est vraiment là. C'est une joie qui nous vient de cette très belle mission que le Seigneur m'a confiée. Pas toujours facile, je l'avoue, et je tiens grâce à la prière, à la vie d'équipe, mais c'est une joie réelle, celle que je retrouve au quotidien. Et je vous demande aussi de prier pour moi, pour ma mission à l'hôpital, pour ma mission au niveau national, pour tous les aumôniers, toutes nos équipes. Je confie notamment à la Vierge Marie tous les patients hospitalisés, quelles que soient leurs convictions, hein, leurs familles, souvent en souffrance à cause des restrictions Covid, et tout le personnel soignant qui tient le coup jour par jour, malgré la charge de travail qui ne diminue pas. Alors, merci vraiment pour votre écoute et restons unis.
Constantino Fiore, nous avons une auditrice qui a envoyé une question par SMS. Oui. Alors, vous nous aviez déjà précisé en première partie d'émission comment intégrer une équipe d'aumônerie. Je lis la question de l'auditrice, il s'agit de Marie-Céline. Faut-il un diplôme pour entrer comme salarié dans l'équipe de l'aumônerie? Quelles sont les démarches à suivre? Y a-t-il une limite d'âge?
Y a-t-il?
Une limite d'âge.
Limite d'âge, oui. Okay. Alors, pour être salarié dans une équipe d'aumônerie, donc être d'abord missionné par l'Église diocésaine, par son évêque, il faut être laïque à mission ecclésiale, ce qui implique une formation théologique de base. Après, chaque diocèse demande de niveaux différents de formation théologique, ça peut varier de diocèse à diocèse. Le bac n'est pas nécessaire, par contre, une formation théologique de base, oui. Une formation à l'écoute qui est assurée par la pastorale de la santé. Et pour être salarié aujourd'hui, depuis 2017, le ministère de l'Intérieur et de la Santé demande aussi une formation à la laïcité. Il y a un diplôme universitaire, mais on a 2 ans de temps après la signature du contrat du travail pour obtenir ce diplôme. Alors, toutes ces études peuvent être financées par le diocèse ou par l'hôpital lui-même, hein, notamment le diplôme en laïcité. Du coup, une formation théologique de base, pour répondre à votre question, c'est une formation assurée par la pastorale de la santé à l'écoute. Avant de se poser la question de la formation, je conseille toujours de faire un discernement sur la possibilité d'être dans un milieu hospitalier, un discernement de deux côtés, de la part de l'Église, de la personne, pour voir, vérifier si la personne est vraiment, si c'est vraiment sa mission, la mission qui lui correspond. Au niveau de la limite d'âge, dans la fonction publique hospitalière, c'est 65 ans. Après, encore une fois, il faut un discernement de la part du diocèse. Les hôpitaux qui ont des postes à pourvoir pour les aumôneries hospitalières acceptent normalement les propositions de l'église diocésaine, de l'autorité culturelle, s'il s'agit d'un autre culte. Le discernement et le recrutement se fait au niveau du diocèse. Donc, je vous invite à vous adresser à la pastorale de la santé de votre diocèse.
Alors, nous avons reçu un message de Monique. Il s'agit juste d'un message de remerciement. Merci beaucoup, monsieur, d'apporter votre présence, votre précieuse présence humaine et spirituelle à tous ces malades en quête d'espérance. Donc, c'est signé Monique. Merci, Monique, pour votre message. Peut-être une dernière question pour terminer notre émission. Je voudrais revenir sur votre parcours. Oui. Donc, vous avez dit qu'avant d'être aumônier d'hôpital, vous avez été conseiller juridique dans un hôpital.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le milieu hospitalier?
Peut-être cette attention à l'humain. Cette idée qu'au-delà des règles, du cadre juridique ou du protocole de soins, par exemple, il y a des personnes. Il y a des personnes qui dispensent des soins, mais il y a des patients de l'autre côté de la barrière qui demandent à être considérés comme des personnes vraiment à part entière. Il y a une quête d'humanité à tous les niveaux, au niveau des patients, des familles de patients et du personnel soignant, au-delà de tout ce qui est, il y a beaucoup de règles à respecter, de protocoles à mettre en place, de cadres juridiques, médical à observer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est avec des personnes à part entière qui ont leurs convictions, leur spiritualité, leur besoin de prier. Et le défi que je propose toujours au personnel soignant ou directeur d'hôpitaux aussi, c'est que si un patient se sent considéré dans sa globalité, sont respectés dans ses convictions, se sont accompagnés au niveau spirituel, ils participent mieux à une démarche de soins, ils collaborent mieux avec le personnel soignant. Alors, c'est d'être allié pour le bien du patient en le considérant comme une personne à part entière. C'est un peu ça notre défi et ce qui m'a aussi amené à me lancer du cadre juridique, à passer du cadre juridique et réglementaire à une mission plus proche de l'humain, où l'élément juridique est toujours présent, hein, parce que j'ai toujours des circulaires à faire appliquer, des lois à faire respecter pour nos équipes de monnerie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Constantino Fiore, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui pour partager votre expérience d'aumônier national et d'aumônier d'hôpital. Je le rappelle, vous exercez toujours en tant qu'aumônier dans un hôpital public à Lyon. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message pour les auditeurs de Radio Maria?
De continuer à écouter Radio Maria d'abord et vraiment nous soutenir avec votre prière, soutenir les équipes d'aumônerie, les équipes soignantes et tous ceux qui sont en ce moment à l'hôpital, qui peut-être nous écoutent dans un lit d'hôpital, qui ont besoin d'une parole d'espérance et savoir que l'Église est toujours là pour eux.
Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci à vous.